écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Josiane Tricotti
raconte.
Bonjour. Aujourd'hui, quelques commerces proposent à Menton des produits 100% en vrac. Des fruits, les céréales, les légumes, les liquides, même la farine. On peut tout acheter sans emballage. Et comme dans l'ancien temps, nous dirons quelques personnes d'un âge certain, ça se faisait déjà, hein. Mais que nous veut ce retour en arrière? Est-ce que c'est une nostalgie d'une époque révolue? Une recherche de produits plus naturels, donc. Peut-être d'une agriculture de proximité? Je pense aussi c'est la limitation du gaspillage et la protection de la nature en limitant les déchets polluants et aussi la réduction des dépenses. Hein. Probablement toutes ces raisons motivent les clients à pousser la porte de ces épiceries en vrac, dirons-nous. Dans les Alpes-Maritimes, le mouvement zéro déchet gagne du terrain. Des collectifs de consommateurs créent ou ont convaincu des commerçants d'accepter les récipients que leurs clients amènent au nom de la réduction des déchets. Ainsi, à l'aube du troisième millénaire, les consommateurs deviendraient-ils plus sages? Voilà une bonne nouvelle. Il faut dire qu'en un demi-siècle, nous avons tellement modifié notre façon de vivre. Je suis une enfant de l'après-guerre et j'ai connu la fièvre des 30 glorieuses d'avant le choc pétrolier. Ces années de croissance où nous pensions repousser dans la préhistoire nos habitudes de vie. Avec le recul, qui avons-nous gagné? Est-ce nostalgie des années d'enfance? Mais je me prends à penser avec tendresse à notre épicerie de quartier des années 50. Est-ce que notre épicerie de quartier entrerait aujourd'hui dans nos critères actuels de l'écologie et de l'anti-gaspi? L'anti-gaspi, sûrement. L'écologie, peut-être. Après, les choses ont bien changé quand même. Tous les mentonnais du Gareil ont sûrement connu l'épicerie de Nini, une institution. Elle se trouvait en face des écoles primaires du Gareil. Je dis qui se trouvait puisque elle a été, dans les années 70, modifiée en libre-service et elle a tout de même fermé ses portes il y a quelques années. Et même la maison a été détruite pour laisser place à un immeuble aujourd'hui. Donc, gamine, je faisais les courses dans cette épicerie qui, pour moi, tenait autant de la grotte d'Ali Baba que de l'épicerie. Avec ses nombreux sacs entreposés à même le sol, ses odeurs mélangées d'épices, de savon de Marseille, de produits ménagers. C'était un peu l'antre inquiétant où dans la pénombre, la boutiquière, Nini, donc, allait me questionner. As-tu rendu les pots de yaourt que ta mère me devait la semaine dernière? Est-ce que tu as tous les pots pour le lait? Faire ses courses pour la maison dans les années 50 n'était pas si facile pour moi. Munie de la précieuse liste de courses, les bouteilles, les pots consignés, je me rendais très souvent, tous les jours pratiquement, chez Nini, après l'école. Ici, dans cette épicerie, pas de grandes vitrines, pas de lumières éclatantes, quelques publicités aguicheuses, sur tôle ou sur carton, pas d'armoire réfrigérée bien sûr. On descendait une marche pour entrer dans ce qui devait être une grande salle, mais tellement encombrée et peu éclairée qu'elle semblait très étroite. L'éclairage naturel ne venait que de la petite vitrine en bord de route et qui était bien encombrée. Les trois autres murs étaient aveugles et occupés par des rayonnages en bois et des armoires. Quelques ampoules dispensant un éclairage assez maigre pendaient à un fil électrique. Et ces ampoules éclairaient de façon très parcimonieuse l'épicerie. Les légumes et les fruits étaient proposés à la vente à l'extérieur du magasin sur des étals montés à même le trottoir. À l'intérieur, la clientèle se frayait un chemin sinueux entre les sacs de jute et les étagères pour atteindre le fond du magasin où se tenait derrière un comptoir à compartiment vitré l'épicière Nini qui, du haut de ses 1m50, peut-être moins, sûrement moins d'ailleurs, régnait sur un univers de boitages et de sacs et de clayettes remplies de diverses graines. Elle était toute petite, mais savait se faire respecter, hein, avec un caractère bien trempé. Le service d'hygiène frémirait sûrement aujourd'hui à la vue des nombreux chats qui dormaient sur les sacs et que Nini chassait d'un revers de main pour plonger sa pelle d'aluminium dans le sac et prendre quelques légumes secs. Mais ces Ramina Grobis avaient leur utilité. Grâce à eux, aucune souris ne venait faire ripaille dans sa boutique. Ici, tout était en vrac. Les lentilles, les pois chiches, les haricots, le café bien sûr, mais aussi le riz, la semoule, le sucre, la farine, les pâtes alimentaires. Les pâtes, bon, elles ne venaient pas de très loin. 300 mètres plus haut se trouvait la fabrique de pâtes qui fournissait Nini. Et elle vendait donc toutes les pâtes, et pour les fins de mois difficiles, ce qui arrivait souvent chez nous, on pouvait même acheter les pâtes cassées, mal ou mal formées, bien moins chères. Le café en vrac, lui aussi, était grillé à Menton, par deux torréfacteurs en pleine ville, mais celui que nous achetions était celui grillé par une vieille dame, enfin elle était vieille pour moi, je pense qu'elle n'avait peut-être même pas 50 ans, qui s'installait sur le trottoir avec son bidon muni d'une manivelle et qui embaumait tout le quartier d'arômes de café grillé. Voyez donc, vraiment commerce de proximité, hein. La laiterie de Monaco nous livrait dans les années 50 tous les matins le lait et les yaourts. Là encore, les contenants étaient réutilisables, je vous l'ai dit, pas de plastique, mais du verre qu'il fallait rapporter une fois vide. C'était toujours pour moi un moment de crainte, Nini inspectait et comptait les pots et les bouteilles vides, en me sermonnant vertement. « Tu diras à ta mère qu'elle me doit deux pots de yaourt !» Et pas besoin de carnet. Tout était gravé dans sa mémoire. Elle ne manquait pas de demander les pots manquants la fois suivante, sous peine de les faire payer. Les œufs venaient de quelques poulaillers voisins aussi. Les personnes qui avaient la chance d'avoir quelques lopins de terre avaient tous des poules et des clapiers à lapins. Cela arrondissait les fins de mois. L'achat d'œufs répondait à un rituel immuable. Nini prenait les œufs un par un, les plaçait chacun à leur tour à la lumière d'une ampoule qu'elle venait d'allumer et regardait très méticuleusement l'œuf pour voir s'il était clair. Pour moi, enfant, ça ne voulait pas dire grand-chose. Cela a mérité quelques explications de mes parents. Pourquoi regardait-elle ses œufs? Mes parents m'ont ainsi expliqué qu'il pouvait y avoir un poussin dans l'œuf. Et chaque fois, je m'attendais donc à voir sortir de cet œuf une petite boule jaune gesticulante dans ses coquilles. Quelle déception d'avoir seulement un œuf! Nini, ce petit bout de femme, menait son commerce d'une main de fer. Mais elle connaissait bien ses clients. Son air acariâtre cachait vraiment un grand cœur. Il n'était point nécessaire d'expliquer vers la fin du mois qu'il n'y avait plus d'argent pour payer les courses. Une série d'ardoises pendait aux côtés de l'ampoule pour mirer les œufs. Et chacune d'elles portait le nom d'une famille du quartier. Et en fin de mois, les ardoises étaient effacées, car personne, grand Dieu, au grand jamais, personne n'aurait osé faire une dette. Et la paye venue, on allait immédiatement régler ce que nous devions à Nini. Voilà, autre temps, autre mœurs. Il régnait dans ce quartier une vraie solidarité. Et on peut dire, peut-être, ces choses-là ont un peu changé. Et c'est dommage. Bonne journée.